trop vite. Voilà, Jésus. On ne va pas faire un grand discours, enfin une grande présentation sur la christologie ce matin. On pourrait, je vous encourage, premier instant de publicité, page de publicité dans mon, à aller au cercle biblique. En particulier la semaine dernière, rien que pour vous dire, il y a eu vraiment un enseignement magnifique sur la christologie et sur la nature du Christ. Il est le Fils de Dieu. Il est le Dieu. Il est Dieu. Il est venu sur terre. Jésus, Fils de Dieu, s'est fait homme, Jésus de Nazareth. Au fond, beaucoup de choses et déjà des choses des fois difficiles à comprendre. Le Dieu s'est fait homme. Quand les Hébreux vont dire que c'est un scandale, la croix, c'est à ce sujet-là, entre autres, qu'ils parlent. Comment Dieu a pu s'abaisser pour venir sur la terre? Il est devenu un homme parmi tant d'autres. Jésus de Nazareth, avec une histoire, un travail, un métier. Compliqué à comprendre, c'est compliqué tout cela, réaliser. Et si des fois on pense qu'on l'a réalisé, c'est qu'on ne l'a pas vraiment réalisé. Compris moi quand j'étais plus jeune, je savais ça, parce qu'on l'a toujours entendu. Mais qu'est-ce qu'il y avait vraiment perçu dans ma tête? Pas grand-chose. Il est devenu homme, il s'est incarné. Ce mot incarné qui est, paraît compliqué, mais qui est quand même le cœur de la pensée chrétienne. De notre foi, qui est si très mal compris pour un juif ou pour un musulman. Un juif va nous dire quelque part, gentiment, mais vous êtes encore un peu païen, vous les chrétiens, avec votre histoire de Dieu qui devient homme. C'est d'idolâtrie tout ça. Et les musulmans aussi, votre révélation n'est pas achevée, vous n'avez pas tout compris. Vous êtes un peu en retard. Cette question de Jésus, fils de Dieu et, fils de, et homme, va être le point central de toutes les hérésies depuis 2000 ans. Et chaque fois que des gens ont quitté la foi chrétienne, c'est sur ce sujet. Ce n'est pas un sujet anodin. Jésus est Dieu et les hommes. Incompréhensible. Et une vérité qu'on ne peut que recevoir par la foi. Non seulement il est un homme, mais il a décidé de devenir faible et de mourir pour nous. Comment expliquer tout ça? Alors, je pensais à une chose. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui a pensé, c'est un grand théologien qui s'appelle C.S. Lewis, que certains connaissent. Avant tout, c'est un grand professeur d'université, un grand théologien, un grand professeur de littérature, parlant avec des élèves bac plus 12, plus 15. Il a dit, comment je peux communiquer la foi? Comment je peux parler de Jésus? Et il a écrit des contes, Narnia. Hein, il passe à la télé maintenant. Mais à la base, c'est un théologien qui a fait ça. Il s'est dit, comment je peux communiquer ce que c'est, tout ça? Comment je peux communiquer cette folie? Moi, professeur de Cambridge. Et donc, il s'est dit, peut-être le mieux, des fois, c'est les contes. Alors, je vais vous raconter, je ne veux pas vous raconter Narnia en entier, mais juste deux, trois choses, parce qu'au fond, on est en plein dans l'histoire. Dans ce conte, il y a un royaume imaginaire et ce royaume est glacé. Il est abandonné. Et puis il y a des hommes, des enfants qui arrivent et à qui on a promis qu'ils seraient les rois. Et ils sont là pour le délivrer. Mais l'un des garçons désobéit. Et il abandonne ses amis et les trahit. Il a trahi ses amis. Eustache. Alors la condamnation va arriver, il va mourir. Edmund, Eustache après. Edmund, merci. Merci, Edmund. Ce n'est pas des noms très fréquents, ni très... Enfin, je ne sais pas si vous allez appeler vos enfants Edmund. Edmund. Et Edmund doit mourir. Et à ce moment-là, il y a le roi, Aslan, le lion. Tout le monde le craint. Il dit, mais je vais prendre la place de cet enfant et je vais mourir à sa place. Et il meurt et il est ressuscité. Regardez au Relisé Narnia. Peut-être que votre cœur sera touché comme vous n'avez jamais été touché par la puissance de la croix des fois. Oui, la croix est une folie pour nous, un scandale pour les Juifs. Je vous ai parlé du scandale pour les Juifs. La folie, moi personnellement, avant d'être chrétien, la croix c'était une folie. J'étais quand même un enfant de ce siècle et un enfant né bien dans la pensée grecque, très à l'aise dans la pensée grecque. J'avais une grande carte de la Grèce dans ma chambre, j'avais lu beaucoup de philosophie, beaucoup, beaucoup de philosophie, beaucoup de poésie. Je connaissais énormément bien l'histoire grecque. Ouais, j'étais bien, bien grec, pour plein de raisons. Et j'avais été passer un week-end chez des amis qui étaient chrétiens, et on commençait à parler, et ça ne me dérange pas, comme beaucoup de gens sur cette terre, de parler de Dieu. Et vous avez remarqué qu'il y a des gens qui parlent de Dieu qui en savent beaucoup plus que vous. Et beaucoup mieux d'ailleurs, y compris sur votre histoire. Mais quand même, au fil de la conversation, je leur dis à la fin, mais il y a quand même une histoire que je ne comprends pas, que je n'arrive pas à comprendre dans tout ce que vous me racontez. Si Dieu est Dieu, comment peut-il mourir? Si Dieu est Dieu, éternel, comment il peut mourir? Et j'étais là avec ma question. Comment Dieu peut aller sur une croix s'il est Dieu? Comment c'est possible? Et il va me raconter Narnia. Peut-être que j'aurais compris avec Narnia, j'en sais rien. En tout cas, je ne comprenais pas. Et la femme, qui était juive, elle, m'a répondu, elle ne m'a pas répondu, elle m'a dit, seul quelqu'un qui est un grand croyant ou un grand pécheur peut poser ce genre de questions. À l'époque, j'étais vraiment surtout un grand pécheur. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Et je ne vais pas vous donner la réponse aujourd'hui. Je peux vous dire la conséquence. Mais c'est un mystère. Et chaque fois qu'on a essayé de comprendre, on ne peut pas comprendre. On ne peut que le recevoir par la foi. Et c'est ce qui s'est passé pour moi le lendemain, au culte, où par rapport à la prédication de la croix, où effectivement on prêchait sur la communion, que Jésus était mort sur la croix, que je pouvais avec lui communier dans sa mort pour communier dans sa vie, et que je pouvais passer de la mort à la vie. J'ai dit oui. Et j'ai dit à Dieu, je te donne ma mort. En plus, c'est ce que je ressentais, que j'étais en train de vivre à ce moment-là. Un temps de mort intérieure profond. Je dis, ma vie, elle ne vaut plus rien. Je l'ai dilapidée, à aucun sens. Je peux vivre 70 ans, 75 ans, mais ça n'apportera rien de plus dans ma vie. J'étais déjà très loin dans ma philosophie, entre guillemets. J'avais plus de sens. Je lui dis, au fond, s'il me reste quelques semaines ou mois à vivre, je te les donne. Je lui dis ça comme ça. Oh, bah prends-les. Il me reste 10 centimes. Ah, je n'ai pas dit, je te donne 1000 euros. Je n'avais pas 1000 euros en poche. Il me restait 10 centimes de ma vie. Je lui dis, je te donne mes derniers 10 centimes. C'est des fois plus difficile de donner ces derniers 10 centimes que ces premiers 10 centimes, en général. Et des fois, on s'y accroche plus longuement à ces derniers 10 centimes. Mais là, je lui ai donné, sans arrière-pensée. Et tout de suite, j'ai reçu de la part de Dieu cette conviction qu'il m'aimait et qu'il me donnait sa vie. Et il y a eu une prophétie. Alors on dit des fois, mais il ne faut pas faire trop de prophéties, mais ce n'est pas une prophétie que j'étais touché ce jour-là, dans le culte. Vieille dame, toute tordue, tout handicapée, enfin voilà. Le copain disait, mais ce n'est pas une église, c'est la cour des miracles. Je dis, ah ben c'est bien, alors donc c'est une église. Si c'est la cour des miracles, c'est l'église. Si ce n'est pas la cour des miracles, ce n'est pas une église. C'est ça une église, c'est à tout le monde. Les gens très différents. Et elle parlait, on entendait à peine sa voix, elle m'a dit, mais Dieu t'aime, et tu es le même. Et toi, tu me donnes la mort, ta mort, et moi je te donne ma vie. Waouh. Il n'y a pas de TSF, il n'y a pas de micro. Je viens de dire ça dans ma tête, je ne l'ai pas dit à haute voix. C'est quoi cette histoire? Déjà, elle parlait en langue, je croyais qu'il parlait russe. Bon, voilà, mais là. Mais ça ne m'a pas empêché de rester. communauté dans la mort et dans la vie du Christ. Et je l'ai cru. Et j'ai mis ma foi dans cela. Voici l'anneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vous connaissez cette phrase ? Là aussi, quelques jours après avoir relu Romains, je ne commençais pas à lire Romains, puis après j'ai commencé à lire l'Évangile, et j'ai lu ça. Et j'avais besoin. Et là, parce qu'on a besoin d'expériences spirituelles, là, le Seigneur m'a touché de manière incroyable. J'étais à genoux dans ma chambre, tout seul, loin de tout le monde, et là j'ai reçu le sang de Christ sur moi, une douche. Je n'étais pas très je ne savais pas ce qui me passait, j'avais peur. Mais j'ai senti qu'en même temps que je ressentais ce sang sur moi, il y avait une délivrance profonde de moi. Délivrance du péché, délivrance du passé, délivrance de la mort. J'étais délivré, j'étais sauvé, j'étais lavé par le sang du Christ. Par le sang du Christ. Oui, la puissance de la croix est une puissance qui agit dans ma vie, qui agit dans votre vie, qui agit depuis des milliers d'années, des centaines, enfin 2000 ans, pour être très concret, et qui nous transforme. Il a été blessé, Jésus, à cause de mon péché, de mes fautes. Il a été écrasé à cause de mes péchés. Et la punition qui donne la paix est tombée sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. On l'a entendu, on le répète. Mais combien mon cœur ce matin est que ces paroles deviennent puissance dans la vie de chacun d'entre vous et dans ma vie. Parce que j'ai besoin de cette puissance encore aujourd'hui. Je méritais d'être puni. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus a été puni à ma place, à la place d'Edmund. Il a été puni. Et nous sommes guéris. Et nous sommes sauvés. La force de Dieu, la puissance de Dieu s'est manifestée dans sa faiblesse. La croix est le lieu de la victoire du Christ. Et de ma défaite d'ailleurs, mais de la victoire. Et comme on dit, le diable ne pouvait pas imaginer que Dieu, dans sa immense sagesse, ou dans son immense folie d'ailleurs, pouvait imaginer que pour régler, sauver l'humanité, délivrer l'humanité, il pouvait venir sur terre pour prendre la place de l'homme qui était pécheur. Dans son orgueil, dans son total, le diable ne pouvait jamais imaginer une chose pareille. Ce n'était pas dans son logiciel. Ça ne pouvait pas être dans le logiciel de l'ennemi. La force et la puissance de Dieu s'est manifestée dans sa faiblesse. Alors, l'œuvre, hop là, c'est parti. Dieu est souverain du vidéoprojecteur. Amen. Vous êtes d'accord avec moi ? Voilà. L'œuvre de la croix dans notre vie. La puissance de la croix agit dans ma vie et dans la vie de chacun d'entre nous. Nous sommes appelés à nous identifier dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. Par la croix, notre vieille nature est brisée. Par la croix, la puissance de la vie est dans moi et me transforme. Par la croix, je suis libéré de la honte et de la culpabilité, de mon péché, de mon passé, d'aujourd'hui. La culpabilité, la peur, la honte ne sont pas dans le domaine de Dieu. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts nous ressuscite de la mort de notre vieille nature. Il dépose une puissance extraordinaire dans la vie de chaque croyant. Cette même puissance de résurrection qui est à l'œuvre pour sauver Jésus, pour ressusciter Christ, c'est cette même puissance, et c'est cela que Paul dit, c'est cette même puissance qui est à l'œuvre dans votre vie. Ne sous-estimez pas la puissance de Dieu dans votre vie. Amen. Nous sommes libérés par Christ. C'est au pied de la croix que nous sommes placés, que nous pouvons nous placer et recevoir la délivrance et la guérison. C'est au pied de la croix que nous pouvons savoir ce que c'est que l'amour du Christ et l'amour de Dieu et l'amour du Père qui a accepté que son Fils meure. C'est au pied de la croix et nul ailleurs. C'est depuis la croix que je sais réellement que Dieu m'aime. Parce que je sais le prix et la réalité de cela. Et ce n'est pas des mots. Ça devient une réalité dans ma vie. C'est au pied de la croix que je reçois le pardon et que je peux pardonner. C'est au pied de la croix que je peux apprendre à m'aimer aussi, tout simplement. Et à aimer les autres. Mais déjà à m'aimer. Parce que ça commence là. Parce que comme on dit... C'est terrible, hein ? Je suis désolé. C'est le tonnerre de Dieu. Il faut réveiller ceux qui étaient pareils. Il y avait des gens qui dormaient là ? Levez la main. On sache maintenant. Je ne sais plus ce que je voulais dire à la secousse. Comment je peux ne plus ne pas m'aimer quand je sais que Jésus a fait pour moi ? Tu t'aimes pas ? Tu te trouves moche ? Tu te trouves comme ceci, comme cela ? Et pourtant, lui, le Dieu unique, merveilleux, a décidé pour toi de mourir. Tu ne devrais pas changer ton regard sur toi-même et te regarder autrement? Tu n'aimes pas ton frère? Tu n'aimes pas ta sœur? Tu trouves qu'elle a vraiment fait n'importe quoi? Qui suis-je, moi, pécheur, pour juger l'autre? Qui suis-je? Oui, au pied de la croix, j'apprends à m'aimer et à aimer mon frère, ma sœur. Je suis frère et sœur en Christ, parce que je suis frère et sœur au pied de la croix avec lui. Nous sommes... appelés tous les jours de notre vie, continuellement, à rester dans cette vérité. Ça ne sert à rien d'aller ailleurs. Il y a des faits qui ne seront pas dépassables. Il y a des révélations qui ne seront pas dépassables. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour moi. Dans ma démarche, ma vie chrétienne, en réalité, n'est que simplement d'accepter jour après jour. Et c'est ça que ça veut dire porter sa croix. Porter sa croix, ça ne veut pas du tout porter la souffrance. Hein. Une mauvaise interprétation. Mais c'est de reconnaître que c'est la croix qui est mon salut. C'est un signe de reconnaissance. Et porter sa croix, ce n'est pas de porter la souffrance. C'est de porter le salut du Christ en moi, jour après jour. C'est de me revêtir de cette croix comme étant ma gloire et ma liberté. Pour conclure, on va conclure ensemble, mais je voulais lire dans Corinthiens au chapitre 6. Ce verset, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Qu'est-ce que nous étions ? On va le dire quand même. C'est un passage qui en général maintenant enverrait n'importe qui au tribunal, mais que Paul a dit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous égarez pas. Ce Ce ne sont pas ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle, à l'idolâtrie, à l'adultère, à l'homme qui couche avec les hommes, aux voleurs, aux gens avides, aux ivrognes, ceux qui s'adonnent aux insultes, à la rapacité, qui hériteront du royaume de Dieu. Toute une liste sympathique, mais vraie. On peut se retrouver tous un petit peu rapacité, idolâtrie, inconduite. Bon. Ça concerne beaucoup de monde quand on réfléchit. D'ailleurs, Paul est gentil, il dit « certains ». Voilà. Quand on lit ce qu'il dit des Corinthiens, on avait plutôt le sentiment qu'ils étaient tous un petit peu... c'était chaud, quoi. Et justement, et c'est là, et là, Paul est extraordinaire. Et là, Paul est un homme de foi. Parce qu'il dit, vous étiez, et pas vous êtes. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence ? Y compris, quand vous lisez l'Épître, on voit bien tous les problèmes. Hein, ils couchent avec la mère, non, j'ai rien compris, mais la fille, enfin bref. Il y a des trucs, ils vont en procès, enfin, ça part dans tous les sens. Et il dit, vous étiez, vous n'êtes plus. Waouh ! Quel regard de foi avait Paul ? Quel regard pastoral avait-il à ce moment-là ? On dit il est dur, mais quel regard pastoral a été ? Et je vous encourage tous à vous regarder votre frère et votre sœur, non pas en disant « vous étiez et tu seras toujours comme ça » ou « j'étais et je serai toujours comme ça », mais ben, « vous étiez et vous êtes ». Quelle différence ! Est-ce que nous pouvons regarder mon frère, notre frère et notre sœur en disant « ce que tu as fait hier n'a plus d'importance ». Tu es une nouvelle créature. Je vois l'enfant de Dieu qui est en toi. Je ne te regarde pas par rapport à ce que tu étais hier. Ça changerait énormément nos relations, je vous assure. Vous étiez. Le péché était condamné. Tout ça, même s'il continuait à le vivre, ce n'était plus la réalité. Et c'est vrai pour Corinthe, et c'est vrai pour nous. Et ce qu'il leur reproche, au fond, c'est de vivre encore dans le passé. C'est de vivre hier et pas aujourd'hui. C'est de vivre comme si la croix n'avait pas fait une différence dans leur vie. C'est de rester avec leur vieux schéma, leur vieille pensée, leur vieille peur, leur vieille crainte. Vous étiez, mais vous n'êtes plus. Ouais, je sais, c'est difficile, mais c'est l'œuvre de la croix dans ma vie. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes la fille, le fils de Dieu. Vous êtes les pierres vivantes. Et on pourrait sortir tous les versets que Paul, que Pierre vont donner. Vous êtes. Est-ce que je peux prendre possession de l'héritage et de ce que Dieu m'a donné ce matin ? Est-ce que nous pouvons avoir cette foi pour croire. Est-ce que nous pouvons avoir un peu la foi de Paul ce matin en disant oui, Seigneur ce matin, parce que c'est de ça que nous avons besoin, vous avez bien compris. Nous avons besoin de la foi pour comprendre, pour recevoir la croix. Aucun raisonnement intellectuel ou théologique ne pourra vous le donner, sauf la foi. C'est par la foi que nous recevons la puissance de la croix. Et c'est par la foi que nous laissons la croix agir et faire son œuvre dans notre vie. Et que Christ agit dans notre vie. Et que la résurrection du Christ agit dans ma vie. C'est par la foi. En disant, j'étais, mais je ne suis plus. Et ça, c'est un processus de toute notre vie. C'est pas le processus d'un jour, même s'il y a un commencement. Mais c'est tous les matins que nous avons besoin de se dire cela. Et jour après jour, on grandit. Et ce que je peux vous dire, et ce que je dis, y compris en conseil pastoral régulièrement, c'est que si vous avez le sentiment que des fois ça tourne en rond, ça ne tourne jamais en rond dans la vie chrétienne. Ça tourne comme une spirale peut-être, ou comme un disque, mais ça avance en réalité. Et comme si des fois vous avez le sentiment que vous revenez en arrière, en réalité, vous avez passé un étage de plus et vous montez. Alors, bien sûr, vous pourriez penser que ça serait tellement bien si tout se réglait comme ça, d'un clin d'œil. Je n'ai pas obligatoirement trop d'explications pour vous dire pourquoi ce n'est pas ainsi. Mais ce n'est pas ainsi. Voilà. Et Dieu, et dans les conseils qu'il nous donne, il parle aussi de la patience. La foi et la patience vont ensemble. Est-ce que parce que à votre prière, ou parce que vous n'êtes pas parfaite aujourd'hui, vous allez arrêter de croire? Est-ce que vous allez accepter de dire, bon, ok, je suis encore en chemin, mais je veux rester et je veux croire. Et ce matin, je prends l'engagement de dire, oui, je sais la puissance du Christ et je veux vraiment dire, je suis en Christ et je ne suis pas hier. Amen. Je vous propose, on va avoir un temps de prière maintenant, tous ensemble. Mais je vous propose qu'on le fasse d'une manière un peu différente et voilà, on n'est pas à Corinthe, mais on va mettre un peu le bazar là. Donc on va prier en petits groupes de 5-6. On va prier pour son frère, mon frère. On va prier pour son frère, pour sa sœur. D'accord ? Alors vous n'êtes pas obligé, vous pouvez partager un petit peu. On va prendre un peu de temps là, on n'est pas en retard. On va prendre un peu de temps, 5 minutes, 10 minutes, en disant tu peux qu'on prie pour ça ? Ou prie tout simplement pour que le passé soit le passé, si vous ne voulez pas aller plus loin. Mais que chacun bénisse son frère en disant, tu es une nouvelle créature. Tu es une fille de Dieu. Christ est ressuscité. Et je t'aime, mon frère en Christ. En Christ. Parce que je vois Christ dans Olivier. Ça fait longtemps que je le vois, mais c'est vrai. Et c'est vice-versa. Et je sais que c'est vice-versa. Mais on voit Christ. Donc je vous propose qu'on fasse ce temps. Et puis après, on va rester en petit groupe et on va prendre le repas en petit groupe. Donc on amènera les gobelets, tout ça, la louange reviendra. Et vous garderez dans ces petits groupes, dans ces petites communautés, hein, vous, après avoir prié les uns pour les autres, qu'est-ce que ce serait pas le plus beau symbole, avoir prié après les uns pour les autres, de partager le pain et le vin ensemble. Frères de misère et frères de gloire, nous sommes. Nous sommes tous pécheurs, mais nous sommes tous des enfants de la gloire. Amen. Et qu'est-ce qui est plus beau de savoir que ma sœur et mon frère est comme moi, avec ses péchés, avec ses difficultés. Il était et il sera. Voilà. Et il est. Amen. Voyez, soyez bénis, mes amis. C'était une joie d'être avec vous ce matin, prier. Et vraiment, que ce temps de lecture de Corinthe, que je vous encourage à lire, ce n'est pas pour étudier pour étudier, c'est que toute cette épître puisse vraiment me transformer. Soyez bénis. Donc voilà, on y va, on se met en petit groupe et on prie. De vous changer les chaises, voilà.